Un petit mot, est-ce que vous entendez bien? Pas assez. Alors, je vais essayer d'approcher le micro un petit peu. Est-ce que ça va mieux? Pas encore, tout à fait.
En fait, il a changé de micro parce que l'autre était
oui. un petit peu seulement. Alors, est-ce qu'avec celui-là, ça va mieux?
Ah, oui. Bon, ça va aller comme ça?
Oui. Un tout petit mot un peu hors sujet pour commencer, c'est l'actualité, la nôtre, celle de notre communauté. Notre doyen d'âge, 90 ans, nous a quittés mardi après-midi. Voilà, donc depuis 10 jours, 15 jours qu'il est en train de passer ces derniers jours, eh bien, j'ai été bien occupé et je lui demande que le topo de ce soir soit marqué par la découverte qu'il fait de la Trinité. Notre première soirée a été marquée, je dirais, par Jésus qui est un cœur de feu, qui ne laisse pas de cendre, le buisson ardent à l'Exode. Jésus écoute, soigne, guérit, relève, pardonne. Il appelle et il envoie. Révélant que l'homme trouve véritablement le sens de sa vie lorsqu'il s'engage dans le mariage, dans une consécration, dans un engagement familial, social ou professionnel. Le cœur de Jésus, c'est le cœur des Écritures, le résumé de tout ce que l'on peut dire du Fils de Dieu. Première soirée. Deuxième soirée, parler du cœur de Jésus trouve son sens lorsque son cœur est mis en relation avec notre cœur. C'est ce que nous avons vu avec la première partie de l'encyclique Dilexit Nos, et le pape François y consacre 30 paragraphes, ce qui est assez considérable comme taille pour l'encyclique. Et en quelque sorte, je vous ai dit qu'il tirait un cri d'alarme pour dire « Attention, la société est en train de perdre son cœur. » Elle sollicite, la société sollicite le cœur des individus d'une manière essentiellement sentimentale et superficielle, et donc le cœur n'est pas pris à sa véritable valeur. Le cœur est le lieu où s'élaborent les grandes décisions. Le cœur fait la synthèse de tout ce qui concerne l'homme, l'homme dans l'univers, l'homme dans ses relations, dans sa vie propre, dans l'ouverture à Dieu. Le cœur de Jésus s'adresse au cœur de l'homme et il sollicite le meilleur de lui-même. Dieu nous crée pour être à l'image et à la ressemblance de lui-même. Et lorsqu'il crée l'homme, dans la Genèse, c'est un pluriel. Faisons l'homme. Dieu ne fait pas l'homme tout fait comme si c'est lui qui faisait tout. Il attend notre participation. Il sollicite notre participation pour que, touchés par lui, nous puissions donner le meilleur de nous-mêmes. En préparant l'homélie pour les funérailles de Michel, je me disais, parce que c'est un artiste, Michel, et beaucoup d'artistes sont venus à son chevet les tout derniers jours. Et donc, je vais parler des artistes. Les enfants sont d'abord des artistes. Ils ont un cœur. Leur raisonnement n'est pas encore en place. Et ils réagissent en artistes, en jouant. Ils rient et ils pleurent. Et Jésus, dans l'Évangile, nous dit, si vous ne redevenez pas comme des enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume de Dieu. Alors, bien sûr, les enfants, leur rationalité va être développée, cultivée, et c'est une excellente chose. Mais nous avons à redevenir des enfants, à retrouver un cœur, pour que nous puissions à nouveau être des artistes de nos vies, des artistes les uns pour les autres, parce que Dieu est essentiellement un artiste lorsqu'il nous crée et lorsqu'il vient nous sauver. Tout au long de cette soirée, je vais essayer, je ne suis pas sûr que je vais y arriver, d'utiliser le terme « cœur du Christ », alors que pour l'instant, j'ai utilisé essentiellement l'expression « cœur de Jésus ». Cœur de Jésus, ça dit quelque chose de son cœur d'homme. Cœur du Christ, le titre de l'encyclique dit « le cœur de Jésus-Christ », c'est à la fois son cœur humain et son cœur divin. Son cœur humain vient nous toucher et toucher notre cœur humain pour qu'une fois touché, notre cœur humain puisse s'ouvrir au cœur divin du Christ. Et si notre cœur humain s'ouvre au cœur du Christ, alors il s'ouvre aussi au cœur de Dieu, c'est-à-dire au cœur de la Trinité. J'ai une sorte de vision. L'histoire de la création, l'histoire du monde, même si elle dure quelques milliards d'années, cette histoire a un début et elle aura une fin. Elle est insérée dans l'éternité de Dieu. Elle prend place dans l'éternité divine. Alors le mot éternité ne veut rien dire, comprenez bien, puisque c'est temporel déjà de parler d'éternité. Mais on est bien obligé d'utiliser des mots qui sont un peu maladroits. L'histoire prend place dans l'éternité divine qui est au-delà du temps, de l'espace et de la matière. Si dans les années 1970, des scientifiques pouvaient prétendre qu'il était possible d'attribuer le commencement du monde au hasard, aujourd'hui cette hypothèse paraît de plus en plus improbable. C'est-à-dire qu'il faudrait tellement de hasard que c'est à peu près inimaginable. Pour que simultanément le temps, l'espace et la corporéité se développent et trouvent dans ces trois branches ce qui est nécessaire pour leur propre développement. L'Écriture nous dit que Dieu crée le monde par sa parole. La parole touche notre oreille, la parole touche notre cœur. Dieu sépare les éléments, les uns des autres. Il sépare le contraire. Il sépare la lumière des ténèbres. Il sépare les eaux d'en haut et les eaux d'en bas. Et avec les luminaires, il va séparer les jours de fête et les jours monotones. Je parlais des enfants tout à l'heure, et je me dis, mais si un enfant ne pleure pas, il ne peut pas non plus rire et se réjouir. Mais nous avons à lui apprendre comment pouvoir pleurer et que ça donne de la saveur après à la joie qui va venir. Et pour une part, nous avons à respecter l'enfant quand il pleure. Sinon, nous lui empêchons de faire son travail de génie et de faire cette synthèse formidable de trouver la joie parmi les larmes. Il y aurait une tendance aujourd'hui de dire « Oh là là, il ne faut pas que les enfants pleurent pour qu'ils ne soient pas traumatisés. » Mais pour une part, nous sommes traumatisés. Nous pleurons, oui. Et après, avant, il y avait de la lumière, il y avait de la joie. Et le Seigneur nous appelle à trouver la joie. Le monde, avec son début et la fin, évoque dans la vie de Jésus la naissance de Jésus, l'incarnation, l'entrée de l'éternité dans le monde fini, dans l'espace, le temps, et puis la fin de la vie de Jésus avec la passion, cet homme qui a donné sa vie jusqu'au bout, et le mystère de la résurrection qui nous ouvre à l'éternité de Dieu. Et ce que nous pouvons remarquer dans la résurrection, contrairement à la résurrection de Lazare, lorsque Lazare est réanimé, lorsque Jésus lui dit « Lazare, sort du tombeau », eh bien, tout le monde reconnaît Lazare instantanément. Il n'y a aucune hésitation. À la résurrection, les disciples, Marie-Madeleine, les deux disciples d'Emmaüs, ne reconnaissent pas immédiatement le Seigneur. C'est bien qu'il y a quelque chose de fondamental dans la résurrection qui n'est pas simplement une réanimation pour nous faire croire qu'il y a une éternité. Nous changeons complètement de registre pour rejoindre quelque chose de l'éternité. Et Noël, qui est le début, dans les textes liturgiques, nous parle du retour de Jésus à la fin des temps. Curieusement, il ne se contente pas de célébrer le départ avec la joie de l'incarnation de Jésus. Il nous dit, ah oui, à la fin des temps, il reviendra. Comment ? Jésus prend notre condition humaine pour que nous puissions retrouver la condition divine que le péché nous a fait perdre. Et Jésus nous montre que ce chemin qu'il nous propose pour aller à Dieu, c'est le chemin de l'incarnation. Consentir à cette vie humaine qui a bien des aspects qui sont rudes, difficiles, austères. En étant uni à son Père, alors ça c'est une notion absolument essentielle, Jésus va régulièrement prier et il est uni à son Père. Il fait la volonté du Père. Sa joie, elle est là. En étant uni à son Père, Jésus accomplit pleinement son humanité. Il n'est pas piloté par le Père. Non, il vit son humanité en présence du Père. Et il découvre comment réagir avec les gens qu'il rencontre. C'est en étant uni à son Père qu'il est pleinement libre. Alors nous disons, c'est en obéissant à la volonté de Dieu que nous sommes pleinement libres. Vous voyez cette jonction de obéissance à la volonté de Dieu. Et c'est à ce moment-là que nous sommes véritablement en possession de nous-mêmes pour agir. Et Dieu est curieux de ce que nous allons inventer. Dieu est un artiste et il nous sollicite chacun pour être artiste à notre manière. Jésus entre dans notre monde et il sollicite chacun de bien vouloir l'accueillir dans son cœur. Marie a dit oui. Alors ça, c'est le grand oui de l'humanité, le oui le plus fondamental de l'humanité. Cette petite femme, je dirais, dans un trou perdu à Nazareth, elle a dit oui. Elle a dit oui pour elle, mais à la croix, on entend qu'elle a aussi dit oui en attendant que l'humanité tout entière dise oui à son tour. Elle est notre mère pour nous apprendre ce chemin de dire oui. Marie a dit oui. Joseph, alors qu'il pensait se séparer de Marie, a dit oui. Les bergers ont dit oui, allons voir ce qui s'est passé. Et ça libère leurs paroles. Les mages ont dit oui, et ils sont retournés chez eux par un autre chemin. Chacun, à sa manière, invente le oui qu'il peut dire à Dieu. C'est la même vie qui est la nôtre et en même temps, c'est une vie qui est complètement transformée. Il n'y a pas longtemps, je recevais une femme qui vit des choses très difficiles au niveau familial de son couple. Et puis elle me dit, mais voilà, j'ai prié, et puis au milieu, dans une nuit sans sommeil, au milieu du chapelet, tout à coup quelque chose s'est passé, comme si je basculais de l'autre côté, une joie très grande. Et j'ai perçu que, eh bien, je râlais contre ce qui m'arrivait, et depuis ce moment-là, je découvre que la vie s'est transformée. Je suis la même, mais il y a quelque chose qui s'est transformé. Lorsque nous accueillons le Christ dans notre vie, lorsque nous permettons au Christ d'entrer dans le chantier de notre cœur, parce que notre cœur, pour une bonne part, quel sacré chantier, qui est traversé de multiples idées, des plus fantasques, des plus horribles aux plus merveilleuses. Lorsque nous accueillons le Christ dans le chantier de notre cœur, à l'intime de nous-mêmes, dès cet instant, le Christ nous accueille dans son cœur humain et divin. C'est ce que disait Marguerite Marie Alacoque lors de l'apparition de 1673, si je me souviens bien. Le Christ m'a demandé mon cœur et je lui ai supplié de le prendre. Et il a pris mon cœur, il l'a mis dans le sien et j'ai vu mon cœur comme un tout petit atome dans l'univers. Voilà. Notre cœur d'homme, de femme, est appelé à pouvoir entrer dans le cœur de Jésus. C'est-à-dire dans le mystère qui unit le Père et le Fils. Le Père et le Fils. Le Père et moi, nous sommes un, dit Jésus. C'est pour dire cette unité de désir, de vouloir. Et en même temps, on parle de Père et de Fils. C'est le Père qui engendre le Fils. Donc, à la fois, ils sont au même niveau, ils sont unis entre eux, ils ne font qu'un, et en même temps, entre eux, il y a un infini respect. Et ce respect, c'est l'Esprit Saint. L'Esprit Saint qui unit le Père et le Fils. L'Esprit Saint qui permet de faire au Père et au Fils de ne faire qu'un. Le Christ, dans son cœur humain, est proche de nous et de notre humanité. Il est particulièrement sensible aux pauvres, aux malades, à ceux qui sont dans la détresse. En réunissant des disciples, qui sont des hommes bien ordinaires, il les envoie. Le cœur humain de Jésus n'est pas un cocon dans lequel il serait possible de rester bien au chaud. Non, pas du tout. Le cœur humain de Jésus nous relève, nous encourage. Et combien de fois dans l'Évangile, il dit à celui qu'il rencontre ou à celle qu'il rencontre, « Va ». Prends ton brancard et marche. Va, et désormais ne pêche plus. Va et annonce dans ton village ce que le Seigneur a fait pour toi. Dans son cœur divin, donc nous sommes dans son cœur humain, et nous sommes aussi dans son cœur divin. Dans son cœur divin, il nous révèle, non pas d'une façon intelligente ou intellectuelle, il nous révèle ce qui est sa vie, il nous révèle la Trinité. Et il nous révèle aussi le plan de Dieu, l'œuvre de Dieu, l'œuvre de création, et de salut. Et le salut, il ne vient pas après la création, comme quand on rate une mayonnaise, on se dit zut et on va essayer de la reprendre. Non, c'est l'œuvre de salut commence dès le début de l'œuvre de la création. Lorsque Dieu sépare la lumière et les ténèbres, il fait une œuvre de salut. Lorsque Dieu sépare le mouillé et le sec, la terre ferme et la mer, et il dit à la mer, pas plus loin que là, s'il te plaît, tu respectes la frontière, eh bien, Dieu fait une œuvre de salut. Lorsque Dieu dit à l'homme, dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux et sur les animaux, dominez, c'est pas écrasez-les, mais soyez maître de l'animalité qui est en vous. En disant cela, il fait une œuvre de salut. Et il va nous accompagner sur ce chemin qui, il faut bien le dire, n'est pas si facile que cela. Jésus nous fait découvrir le Père, Jésus nous fait découvrir l'Esprit. Sans l'Esprit Saint, qui vient à notre secours, qui nous inspire, nous serions incapables de pouvoir sentir, goûter, savourer la Trinité. C'est bien le cœur de Jésus, le cœur du Christ, qui m'introduit, qui nous introduit dans la contemplation de la Trinité. Et pour chacun, cette contemplation est personnelle et unique. Chacun est touché dans sa propre vie, dans sa propre existence. Lorsque Adam et Ève disent non à Dieu et désobéissent à son commandement, Dieu ne les remet pas au point de départ en disant « zut, ça a raté, bon, je vous donne deux autres chances et puis ensuite, après ça, ce sera fini. » Non. Dieu montre où est la désobéissance et il va accompagner Adam et Ève sur le chemin qu'ils ont pris. Il leur fait des habits. Ils sont gênés d'être nus, eh bien, il leur fait des habits. Et voilà comment Dieu, avec une patience infinie, va prendre soin de nous, pécheurs. Lorsque dans le désert, le peuple se révolte contre Moïse et Aaron, et puis contre la condition difficile de vivre dans le désert simplement avec la manne, on en a complètement assez de la manne, retournons en Égypte, là il y avait des melons, des oignons, il y avait une marmite de viande, c'était quand même beaucoup mieux. Et Dieu envoie les serpents qui piquent les Israélites et beaucoup dans le peuple moururent. Alors le peuple vient confesser à Moïse en disant « Écoute, on a dit des bêtises, intercède pour nous auprès de Dieu pour nous sauver. » Et Moïse intercède et Dieu lui dit quoi ?« Tu fais un serpent de bronze et tu le mets en haut d'une hampe. Et lorsque quelqu'un sera mordu par le serpent, il regardera le serpent de bronze. » Et il sera sauvé. Dieu n'enlève pas les serpents. Mais Dieu donne le moyen de guérir de la morsure des serpents. Vous voyez, le cœur de Jésus entre dans notre cœur humain et il nous fait entrer à la fois dans son cœur humain et dans la contemplation de la vie de la Trinité. Et c'est cette contemplation de la vie et de la Trinité qui donne le vrai sens de notre vie. Une citation prise par Benoît XVI, prise par le pape François, au numéro 64, « De l'horizon infini de son amour, Dieu a voulu entrer dans les limites de l'histoire et de la condition humaine en prenant un corps et un cœur, si bien que nous pouvons contempler et rencontrer l'infini dans le fini, le mystère invisible et ineffable dans le cœur humain de Jésus, le Nazaréen. » Alors, je voudrais faire une petite incise, qui n'est pas dans l'encyclique, sur la relation au cœur de Jésus est pour nous un chemin de guérison. L'image du cœur du Christ que nous contemplons, c'est en quelque sorte le cœur transpercé de Jésus. Dans les statues du cœur, du Sacré-Cœur, nous voyons le cœur de Jésus qui est transpercé par la lance. Et de ce cœur coule le sang et l'eau. Le cœur blessé de Jésus, c'est l'écho du cœur blessé de Dieu, si on peut parler du cœur de Dieu, en voyant que le chemin que prennent les créatures. Le cœur de Dieu est blessé de voir que toutes les créatures que nous sommes, nous ne prenons pas le chemin de l'obéissance, de la contemplation de son cœur. Il en est blessé. Et le cœur du Christ, eh bien, il est l'écho de cette blessure du cœur de Dieu. Du côté humain, nos cœurs sont aussi blessés. Et peut-être les blessures les plus redoutables sont les blessures par trahison. Jésus le dit pour lui-même dans Saint Jean au chapitre 13, verset 18, et en citant le psaume 40, « L'ami qui avait ma confiance et qui partageait mon pain m'a frappé du talon. » Jésus, le cœur blessé de Jésus, est le mieux placé pour pouvoir accueillir et écouter celles et ceux qui ont été blessés d'une telle manière par trahison. Par trahison de ceux qui ont autorité, d'une manière ou d'une autre. L'actualité est suffisante pour que je n'ai pas besoin de souligner trop. Que celles-là, que ceux-là qui sont blessés, qui ont été blessés, puissent trouver à s'approcher, à laisser leur cœur blessé, les anfractuosités de ces blessures, s'approcher du cœur de Jésus, et que les deux cœurs blessés puissent s'approcher l'un de l'autre pour faire et restaurer un cœur vivant. Ce n'est pas mon cœur blessé, il a besoin de quelque chose pour être guéri. Mon cœur blessé a besoin du cœur blessé de Jésus pour être guéri. Et inversement ou symétriquement, Le cœur blessé de Jésus a besoin de nos cœurs, plus ou moins blessés, pour pouvoir être consolés. Et dans l'encyclique Dilexit Nos, vous pouvez voir que le pape François développe très largement cette dimension de consoler le cœur de Jésus, consoler le cœur du Christ. Il y a comme une sorte de mission et comme une consolation réciproque. Si nous acceptons de recevoir et d'être consolés par Jésus, alors la consolation que nous recevons, que nous accueillons, console Jésus de toutes les souffrances qu'il a dû traverser pour venir nous rechercher. La joie de Jésus lorsqu'il voit des pécheurs qui se convertissent ou des gens blessés qui se remettent debout, la joie de Jésus, c'est une consolation pour lui de dire « ça valait la peine de traverser tout ça ». Voilà pour la première partie. La deuxième partie, il ne faut pas que je sois trop long. Saint Jean, chapitre 20, versets 19 à 29, il s'agit de l'apparition de Jésus aux disciples et à Thomas. Jésus apparaît aux disciples après avoir apparu à Marie-Madeleine, qui a vu que le tombeau était vide, qui a couru chercher Pierre et Jean. Pierre et Jean ont couru au tombeau, ils découvrent qu'effectivement la pierre est roulée et que les vêtements, les draps sont affalés, et Jean entre à son tour et il croit. Et puis ensuite Marie-Madeleine pleure au tombeau et Jésus la rencontre sous la forme du jardinier qu'elle ne reconnaissait pas. Et Jésus lui donne cette mission. C'est les femmes qui ont la mission première d'aller annoncer aux disciples qu'il est ressuscité. Le soir de ce premier jour, les disciples sont enfermés dans une pièce par peur des Juifs et Jésus arrive alors que toutes les portes sont fermées et Jésus leur souhaite la paix. Ensuite, il leur montre ses mains et son côté. Les disciples sont remplis de joie à la vue du Seigneur et le Seigneur répète à nouveau « La paix soit avec vous ». Voilà. Et puis ensuite, il les envoie en leur donnant l'Esprit Saint. « Allez et annoncez au monde entier que les péchés sont pardonnés. » Alors, souvent la traduction du grec ici laisse un peu est difficile parce que il y a des mots grecs qui sont utilisés seulement une fois dans l'Évangile et on ne sait pas très très bien les traduire. Voilà une traduction de quelqu'un qui a essayé de traduire tous les Évangiles au ras du grec, c'est-à-dire au plus rigoureux du grec. Ayant dit cela, il, Jésus, insuffla, c'est-à-dire leur donna l'esprit, et leur dit, prenez le souffle saint, de qui vous laisseriez aller les péchés, ils leur ont été laissés aller. Qu'est-ce qu'on peut entendre dans cette formulation? Vous voyez, c'est pas du bon français, hein, c'est du charabia français, mais c'est pour essayer d'entendre quelque chose du grec. Si vous laissez, chaque fois que vous laisseriez aller les péchés, ils leur ont été laissés aller. Autrement dit, les péchés sont déjà pardonnés dans le mystère de la croix du Christ. Mais vous, vous avez une mission à accomplir, c'est d'annoncer ce pardon des péchés. Voilà. Et si les gens n'acceptent pas, eh ben, y a quelque chose qui ne peut pas se passer. C'est pas parce que Jésus est mort sur la croix et ressuscité que tout le monde est pardonné. Il y a quelque chose qui est à transmettre aux gens, cette bonne nouvelle, que oui, voilà. C'est formidable, parce que notre ami Thomas, eh ben c'est le premier qui ne croit pas à cette histoire. Notre ami Thomas, il voit les disciples le soir, il rentre, et les disciples lui disent « Nous avons vu le Seigneur », et il dit « Oh, hein ?» Moi, si je vois pas, si je mets pas mes doigts dans ses mains et si je mets pas ma main dans son côté, je ne croirai pas. Donc il est exactement celui qui ne veut pas croire à ce que disent les disciples. Les disciples se confrontent à un obstacle pour annoncer le pardon. Alors, si nous relisons le texte de cette apparition, eh bien, nous pouvons entendre qu'ici, le péché n'est pas d'abord une faute morale, que Thomas aurait fait une grosse bêtise, qu'il aurait fait un gros péché. Non. Le péché de Thomas, ici, c'est de ne pas croire. Il dit non, je n'y croirai pas. Si je ne le vois pas, si je ne mets pas mes mains, non, je ne le croirai pas. Et on peut dire, à cet endroit-là, du refus de la foi, il s'enferme dans son péché. Voilà. Ce que nous pouvons aussi entendre, c'est que le refus de la foi circule au milieu de nous. Nous résistons. Nous aussi, comme Thomas, dont on dit son nom c'est jumeau. Donc il a son jumeau en nous. Voilà. Il y a un jumeau en moi, je dirais, qui dit non, je n'y croirai pas. Alors il y a des jours, je dis oui, et puis il y a des jours, c'est le jumeau qui a envie de parler. La bonne nouvelle, c'est que Jésus vient à la rencontre de Thomas. Et Jésus lui dit, il va toucher exactement à l'endroit de son refus. Et il lui dit, mets ta main, enfonce ta main dans mon côté. Et Thomas, à ce moment-là, vraisemblablement, il ne l'a pas fait, concrètement, il dit, mon Seigneur et mon Dieu. Voilà. Thomas exigeait de rencontrer concrètement le Seigneur, mais finalement, c'est en entendant le Seigneur qu'il a reconnu et qu'il est entré dans le mystère de la foi, dans le cœur de Jésus. Ce qu'il n'a pas fait matériellement, il l'a fait spirituellement. Et nous, nous sommes invités, de la même manière, à entrer dans le cœur de Jésus, dans le cœur du Christ. Vous voyez, quand je dis le cœur de Jésus,